m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui, avec courtoisie.
Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue dans le Restons Courtois du 4 juin. Restons Courtois du jeudi. Restons Courtois de Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Étienne Darjac, éditorialiste bien connu de nos auditeurs. Bonsoir, Étienne.
Bonsoir, Marc.
Et Valentin Gore, également connu de nos auditeurs depuis le temps, journaliste politique chez Valeurs Actuelles. Bonsoir, Valentin.
Bonsoir, Marc.
Restez avec nous, chers auditeurs. Programme extrêmement chargé en cette émission puisque, après un temps de débat, nous recevrons à 18h Arnaud Rérol. Arnaud Rérol, directeur du projet Périclès, ce projet fondé par l'homme d'affaires Pierre-Edouard Sterrin. Pierre-Edouard Sterrin qui était ce matin en commission d'enquête parlementaire au Sénat. L'homme d'affaires, le milliardaire philanthropique a pu s'exprimer pendant 1h30 sur les raisons de ses engagements et ce à quoi sert finalement cet engagement. Une commission à laquelle nous reviendrons. Pierre-Edouard Sterrin, qui on le rappelle par déontologie, est aussi actionnaire minoritaire de Valeurs Actuelles, mais ce n'est pas du tout cela qui a motivé notre choix de sujet. Bien évidemment, à 18h15, nous irons avec Nicolas Boutin voir les derniers rebondissements de cette sordide affaire Layana, cette jeune fille de 11 ans qui a disparu. Les forces de l'ordre viennent de retrouver un corps et évidemment des recherches sont en cours pour déterminer si c'est bien celui de la jeune fille. Bien évidemment, le pire est à craindre. On reviendra sur cette affaire, notamment en raison des incroyables manquements judiciaires qui sont pour l'heure observés. Nous recevrons ensuite à 18h30 le député UDR Alexandre Allégret-Pillot. Alexandre Allégret-Pillot qui va intervenir notamment sur la question des quotas de la sélection scolaire et du mérite la parité dans les études est en train de tuer la méritocratie à la française. Avec lui, nous reviendrons aussi sur l'actualité parlementaire, notamment la loi fin de vie qui revient à l'Assemblée nationale et qui pourrait être votée avant les vacances d'été. Et puis à 19h, nous ferons le point avec le politologue Arnaud Benedetti, avec qui nous reviendrons bien évidemment sur l'élection présidentielle en préparation, sur les différentes forces en présence et sur la pléthore de candidats qui se déclarent. On rappelle d'ailleurs cette une assez amusante de Charlie Hebdo, sondage exclusif nous dit le journal satirique, 10% des Français ne se sont pas encore présentés à l'élection présidentielle 2027, c'est vous dire à quel point ça se bouscule au portillon. Mais tout de suite, premier débat, chers amis, puisque on va parler un petit peu, sans se faire trop de publicité, de la une de Valeurs Actuelles consacrée et qui fait état d'une enquête, une enquête terrifiante, glaçante, réalisée par Mickaël Fonton et Pauline Condomine sur le scandale du périscolaire parisien, un scandale qui éclate enfin, longtemps après les élections municipales. Valentin Gore, faut-il y voir un rapport ?
Ça, je ne le dirais pas comme ça, mais bien sûr, on en a quand même parlé pendant les municipales, mais c'est vrai que, disons qu'on n'a pas l'impression que ça a empêché la reconduction, seulement qu'on puisse dire, de la majorité sortante, sans doute parce que les électeurs de socialistes n'ont pas considéré que c'était un sujet qui méritait de changer de majorité seulement pour cela. Ils sont sur d'autres terrains, évidemment, les mobilités douces, la culture, tous ces autres sujets qui semble les passionner. C'est une enquête, en effet, cette enquête de Pauline Condomine avec Mickaël Fonton, vous l'avez dit, glaçante et terrifiante. Hein. On parle du périscolaire. Mickaël Fonton rappelle d'abord que 80% des enfants aujourd'hui fréquentent ce temps périscolaire.
Absolument.
Évidemment, maintenant, papa et maman travaillant, ça concerne tout le monde, et que c'est un secteur qui est absolument non seulement sous-doté, où on embauche non pas n'importe qui, mais vraiment il y a des problèmes parce que il y a pas assez de contrôle. C'est des filières qui sont sous-dotées, qui ne sont pas qualifiées, et ce sont quand même des gens qui se retrouvent en face d'enfants. Donc il y a un manque de contrôle. Autre chiffre que vous aviez rappelé, je crois, Marc, dans une précédente émission, 97% des cas d'agression sexuelle sur les enfants sont commis par des hommes. Mmh. Voilà, je me souviens que vous aviez même soulevé ce problème.
Mais il est vrai que ça, oui, ça lance un petit peu le débat, vous avez raison,
bien
on va
sûr.
Après Valentin.
Voilà, et vous aviez dit qu'il fallait peut-être que certaines professions soient réservées aux femmes de la petite enfance. C'est un sujet qui pourrait s'entendre. Donc vraiment des chiffres et des témoignages, évidemment, qui sont assez sordides pour certains d'entre eux, qui soulève vraiment le cœur, et une mairie de Paris, puisque bien évidemment c'est un problème national, mais dont on a beaucoup parlé à Paris, une mairie qui a vraiment tardé à réagir.
Étienne Darjac sur ce sujet.
Oui, vous avez commencé par dire que le sujet était sorti pour les municipales. Il faut se rappeler qu'il a été sorti très tardivement. Hein.
Mmh. Oui.
Je crois quelques jours avant le premier tour des municipales, donc c'est vrai que différents camps politiques avaient essayé de faire monter le sujet, notamment à droite. Bon, les délais étaient trop courts, et je pense que je sais pas s'il faut voir dans le choix de l'électorat socialiste un désintérêt pour la question. Je pense que le sujet a pas eu le temps de prendre vraiment, d'autant qu'à l'époque on était assez loin de se douter encore de l'épaisseur du dossier. Maintenant c'est évident que s'il est sorti que au dernier moment, je pense que l'exécutif parisien avait fait le nécessaire pour le retarder le plus possible, ça me paraît assez évident. Il faut dire que l'affaire est très embarrassante. La question de réserver ce type d'emploi aux femmes doit se poser, mais c'est un sujet très délicat, parce que ça va à l'encontre de 40 ans de progressisme qui ont martelé que finalement, il n'y avait aucune différence entre les sexes, de nature...
Mmh. Appelons ça de la discrimination positive, si vous voulez.
Appelons ça du féminisme, si vous voulez.
Oui. Je dis juste une chose à ce sujet, précisément. On a retrouvé une ancienne vidéo d'Anne Hidalgo, ça devait être en 2003 ou 2004, qui se félicitait, qui voulait augmenter à l'époque le nombre d'hommes pour faire en sorte que ces professions soient davantage mixtes. Ouais, C'était revendiqué à l'époque par la mairie de Paris.
Quelle belle idée. Non, il est certain que, et vous l'avez dit un peu, Valentin, pardon, il y a un peu deux écueils du progressisme dans cette histoire. Le premier, donc, on vient de le dire, c'est l'accession de ces métiers par les hommes, qui, en fait, quand on utilise un peu son bon sens, a pas beaucoup de sens. Et puis, c'est aussi l'explosion du périscolaire depuis que la quasi-totalité des femmes de ce pays se sont mises à travailler. Alors, c'est autant dû à une certaine propagande progressiste qu'aux réalités économiques. De ce pays aujourd'hui.
Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de salaire, on ne s'en sort pas.
Voilà, aujourd'hui, il faut être très 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 bien payé pour pouvoir se permettre d'avoir une épouse qui ne travaille pas et reste à la maison. Moi, j'ai été élevé comme ça. Je pense que mon père aujourd'hui pourrait plus le faire à la même époque.
Si c'est son choix, bien évidemment.
Bien
si
évidemment.
C'est le choix,
Marc,
si c'est... évidemment. Non, mais attendez. Hey,
évidemment. Cette auto-justification fait de moi un suspect, Marc. Enfin, ça me paraissait tomber sous le sens.
Mon épouse travaille. en tout cas, ce qui est certain, c'est que le groupe Paris Liberté de Rachida Dati a organisé, en tout cas pour la semaine prochaine, le 9 juin, une réunion de travail avec les corps intermédiaires du périscolaire parisien. Alors, on parle de MeToo École, des psychologues, des parents d'élèves, SOS périscolaire, etc., dans la perspective de la mission d'enquête, mission d'information et d'évaluation portée par le groupe. Voilà, donc une réunion le mardi 9 juin qui sera suivie d'un point presse avec les résultats de cette réunion de travail. Donc, en tout cas, on a l'impression effectivement que l'opposition parisienne commence un petit peu à s'emparer de ce sujet. Mais cela pose effectivement question. Je ne sais plus dans quelle enquête, c'était pas dans celle de Valeurs Actuelles, mais dans une autre où on avait vraiment cette phrase terrible au moment du procès d'un des animateurs criminels. Une animatrice qui a dit avoir elle-même devait témoigner dans le cadre d'un procès justement vis-à-vis d'un agent du périscolaire, et la direction des ressources humaines de la ville de Paris lui a dit attention à ce que tu vas dire, il ne faudrait pas que tu portes atteinte à la réputation de l'hôtel de ville, et si c'était le cas, des poursuites pourraient être engagées contre toi. Ce qui est dingue, c'est que, alors je crois, il me semble que c'était chez nos confrères de Marianne, mais ce qui est dingue, c'est que non seulement il y a effectivement un nombre incalculable de pédophiles qui visiblement sévissent dans le périscolaire parisien, non seulement cela a fait l'objet d'aucun contrôle, mais en plus il y a vraiment une omerta politique qui est mise en place. On a vraiment le sentiment à travers tous ces témoignages que l'administration, allez, on va pas forcément parler, on va pas forcément parler des responsables politiques, mais en tout cas, l'administration de la mairie de Paris était parfaitement au courant que de tels faits existaient et qu'ils ont tout fait. En réalité, on a presque l'impression d'entendre l'Église traiter les affaires de pédophilie il y a 25 ans. En fait, finalement, c'est il faut se taire pour préserver l'institution. On a l'impression que la mairie de Paris en est restée à ce stade-là, Valentin Gore.
Non, c'est intéressant ce que vous dites par rapport à l'Église, parce que je crois aussi que la société, et notamment, dirons-nous, au-delà de la gauche, les laïcs, ont parfois eu la tentation de penser que la pédophilie, c'était dans l'Église, que c'était d'abord dans l'Église, qu'il y avait un particularisme dans l'Église, et que c'était vraiment l'arbre qui cachait le reste de la forêt. Ben, on voit bien que c'est un problème qui existe partout, et qui existe au moins autant dans les sphères laïques que dans les sphères religieuses, qui est absolument partout présent dans la société. Sur ce déni, je cite l'article de Valeurs Actuelles, cette réunion de parents, après avoir appris qu'un animateur dans son ancienne école, à l'école Saint-Dominique, avait été poursuivi et inquiété pour ses raisons de pédophilie. La direction des affaires scolaires de la mairie dit qu'on a voulu donner sa chance à cet animateur, et un parent répond « Et qui a donné sa chance aux enfants ?»
C'est ça qui est proprement hallucinant. Et d'ailleurs, moi, ça soulève presque une autre question, Étienne Darjac. D'ailleurs, je rappelle, chers auditeurs, pardon, avant de continuer ce débat, que cette émission est évidemment aussi la vôtre, que vous pouvez réagir à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr ou au standard au 01 46 51 00 85. Frédéric se chargera de nous apporter en plateau vos questions et nous tâcherons bien évidemment d'y répondre. Ce qui est absolument abominable, justement, dans cette affaire, c'est que on a des parents qui entendent ça. Et ce qui est absolument dingue, c'est qu'on a l'impression que rien ne s'est passé. Enfin, je veux dire, il y a pas des parents qui ont pu réagir. On a l'impression que finalement, certes, ça a gueulé entre guillemets, mais qu'au fond, il ne s'est rien passé de sensible et de pardon, j'ai tenté le mot, mais de physique, quoi. Étienne Darjac.
Ouais, c'est vrai qu'on a, j'ai eu l'occasion de le lire sur les réseaux sociaux, des témoignages de parents, de proches des parents, qui expliquaient que l'information sortait, qui est créant évidemment toute l'émotion et l'inquiétude qu'on imagine, et que une semaine après, les enfants des parents concernés se retrouvaient dans la même crèche avec les mêmes animateurs qui n'étaient ni suspendus ni attrapés au col par les parents de ces enfants.
Et surtout, vous êtes parents, vous n'avez pas les noms, vous savez pas qui c'est, voilà. Vous ne savez pas combien d'enfants sont concernés, s'il y en a un, deuxième, etc.
On sent effectivement vraiment, c'est pour ça qu'il faut parler d'omerta, parce que La volonté d'étouffer l'affaire, elle est vraiment à tous les niveaux et dans tous les aspects de l'affaire, soit les aspects politiques, mais également les aspects très concrets, comme les conséquences que ça a eu directement sur la vie de ces établissements. La deuxième chose que je voulais dire, c'était pour rebondir sur ce qu'on a dit sur l'Église, dont nul n'ignore et je crois, j'espère, plus personne ne conteste les manquements à ces sujets-là pendant de très 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 nombreuses années. Il faut quand même noter que Valentin a tout à fait raison de dire qu'on a voulu faire porter à l'Église un peu le seul chapeau de la pédophilie, ce qui est évidemment entièrement faux. Avant que cette histoire du périscolaire ne sorte, il y avait déjà eu des études statistiques qui montraient par exemple que dans le milieu de l'éducation nationale, il y avait en proportion plus d'agresseurs que dans l'Église catholique. Donc, il va de soi que la malédiction de la pédophilie n'est pas tombée par magie sur l'Église catholique en épargnant le reste des institutions ou par ailleurs des religions. Il faudrait aussi ajouter un dernier point à ce sujet, parce que c'est bien et c'est sain d'avoir les yeux ouverts sur l'Église catholique, moi je le dis en tant que catholique moi-même, c'est aussi bien de rappeler que l'Église catholique est probablement la seule institution au monde, et à plus forte raison l'Église catholique française, à avoir engagé de façon 100% transparente une étude sur ses propres agissements, à l'avoir rendue publique et en avoir à l'issue tirer plusieurs conclusions. Alors après, on peut débattre mille ans des conclusions qui ont été tirées, des réformes qui sont envisagées, est-ce qu'elles sont bien, est-ce qu'elles sont pas bien, peu importe. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attaquent très facilement à l'Église parce que ça suffit, qui pourraient s'inspirer de cette stratégie-là.
Ouais. Il y a effectivement, et l'autre question qui arrive derrière, c'est cette fameuse proposition de loi Bétarame, suite à la commission d'enquête menée par le député insoumis Paul Vanier et la députée Ensemble pour la République,
oui, Renaissance, enfin, ensemble,
Renaissance EPR, chose, ouais. La République en Marche, Attaliste, enfin, on ne sait plus, bref, le centre, le centre les, macroniste.
Les derniers mots qui ont.
Madame Spibou, évidemment, l'un des... on va rendre justice, cette commission d'enquête, même si elle a été quelque peu instrumentalisée politiquement pour nuire à François Bayrou, on ne va pas s'en cacher, pointe quand même des défaillances réelles. On parle, suite à... parce qu'il n'y a pas que Bétarame, il y a énormément d'établissements, il faut le dire. Certes, il y a les établissements publics sont concernés, mais ça n'empêche pas que des établissements privés sous contrat soient concernés aussi. Et cette proposition de loi, donc, vise notamment quelque chose qui a fait bondir l'Église catholique, et cette fois de manière unanime, et c'est pas si courant, notamment l'abrogation du secret, la levée du secret de la confession. Déjà, très rapidement... Je pense que vous êtes catholiques tous les deux. Je ne vais pas vous rappeler le principe de la confession, mais évidemment c'est un sacrement, donc c'est régi par le secret, et le prêtre n'a pas le droit, au sens canonique du terme, de trahir ce secret d'une manière ou d'une autre. Évidemment, on en revient du coup à cette fameuse opposition entre la loi de Dieu et la loi des hommes. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que pour vous, Valentin Gore, en enlevant totalement le côté sacramentel de la chose, même si c'est compliqué, je vous l'accorde, est-ce que ça relève, est-ce que l'idée de base, au fond, est compréhensible?
Moi, je dirais que non, parce que, l'Église, de toute façon, est une très vieille institution, ça va de soi. Elle a survécu à beaucoup d'autres lois qui ont tenté, d'autres régimes qui ont tenté d'aller la brutaliser, s'il s'agit quand même de cela au bout du compte. Moi, je dirais simplement qu'il y a une excellente pièce à ce sujet qui se joue en ce moment à Paris, au Théâtre du Nord-Ouest, avec Jean-Luc Génère, qui est d'ailleurs chroniqueur théâtre à Valeurs Actuelles, qui s'appelle tout simplement La Confession.
Et qui traite
exactement de ce sujet. C'est-à-dire, je crois que c'est un homme qui vient voir son confesseur, qui lui avoue un crime. Et alors, que doit faire à ce moment-là le prêtre? C'est un très vieux sujet depuis longtemps dans les sociétés occidentales. Il garde son actualité, mais de toute façon, la confession, c'est aussi un secret entre deux personnes. Donc, on peut faire une loi pour demander aux gens de révéler les secrets qu'on peut apprendre ici et là. Un secret, c'est un secret, et il n'y a pas moyen de le connaître, même avec des enquêtes parfois très poussées, c'est heureusement d'un sens.
Et ce que disent notamment certains prêtres, Étienne Darjac, c'est que, en admettant qu'il y ait qu'il n'y ait pas d'opposition canonique à faire cela, certains prêtres doutent même de l'efficacité d'une telle mesure, puisque cela empêcherait potentiellement les victimes de se confier, cela empêcherait même aussi les criminels d'avouer, tout simplement. Si on sait que finalement cette parole n'est plus secrète, eh bien, cette parole ne sera plus livrée, en quelque sorte. C'est quelque chose que vous entendez?
Oui, c'est un excellent argument, mais il y en a un avant même celui-là, où on parle de l'efficacité de la loi. L'efficacité de cette décision potentielle. La première limite à cette efficacité, c'est qu'elle n'a aucune, la loi n'a aucune emprise sur le sacré. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire passer une loi qui lève d'un seul coup le secret de confession, et quelle est la suite?
Mettre tous les prêtres en prison.
Quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on fait? On met des micros dans les confessionnaux et on voit quel prêtre balance. C'est quoi la suite?
Ça a été fait par l'URSS, ça.
Ça a été fait par la République française, par ailleurs, aussi, en 1905. Oui. Hein. on pourrait y consacrer une émission, mais. Non, mais je veux dire, ça n'a.
Si ça intéresse nos auditeurs, on peut tout à fait la faire. On attend vos opinions.
Ce texte de loi, il n'a aucune emprise sur la réalité, en réalité, en fait. Donc c'est. Évidemment, c'est là qu'il faut rappeler qui est à l'origine de ce projet de loi, c'est évidemment une énième charge contre l'Église catholique, encore une fois, qui est bonne fille, qui détourne l'attention.
Et l'enseignement privé.
Ça ne veut pas dire qu'il y a rien et que Bétarame n'a rien à se reprocher, et personne ne dit ça. Mais cette proposition de loi, c'est juste une offensive gratuite, une énième offensive gratuite contre l'Église, qui, je le pense, j'espère, n'aboutira jamais. Et qui n'aura servi qu'à polémiquer odieusement sur des choses que ces gens ne comprennent absolument pas. J'ajoute par ailleurs, je suis une toute petite aparté, vous avez suivi sans doute cette grotesque affaire du faux témoignage de prêtre.
Vous avez raison, on en parlait, tiens.
Dont je suis absolument persuadé que ce type-là, le type qui a fait cette fausse déclaration, je ne connais évidemment ni d'Ève ni d'Adam, on ne sait pas d'où il vient, mais il est évident qu'il s'est en tout cas inspiré de cette polémique lancée par la gauche pour tourner en dérision l'Église. C'est une évidence absolue. Donc, il faut raison garder et, en tant que catholique, se rassurer un peu, j'allais dire, en disant quoi qu'il fasse, ça ne changera rien du tout. Vraiment, voilà, il y aura sans doute des prêtres jureurs comme il y en a toujours eu, mais charge à nous de ne pas les fréquenter.
Il y en a sur les réseaux sociaux, oui, certains sûr, prêtres qu'on ne nommera pas pour ne pas leur faire de publicité gratuite, qui, dont j'en pense à un notamment, prêtre incardiné, qui milite, lui, de son côté, pour la levée du secret de la confession. Oui, absolument. On va s'arrêter là sur les indices, si vous voulez bien, Étienne Darjac. Autre affaire, bien évidemment, on va quitter le côté un petit peu sacramentel pour aller faire quelque chose de beaucoup plus profane, puisque vous le savez, que si vous savez que la religion est l'opium des peuples, d'après Karl Marx, le football, le sport de ballon-pied est en passe de le remplacer, puisque... on va parler évidemment des violences qui ont eu lieu pendant la finale de la Ligue des Champions. On va surtout parler de cette Coupe du Monde qui s'annonce, Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis et au Mexique, Coupe du Monde à laquelle sont qualifiées la France, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal. Et figurez-vous, et c'est l'équipe qui nous l'apprend, que le ministère de l'Intérieur a classifié justement les matchs, les équipes nationales en fonction de la dangerosité potentielle des événements que ça pourrait se situer. Allez, à votre avis, quelle est l'équipe en tête de ce classement?
C'est insoutenable.
Je ne sais pas. Dites-nous.
Indice, ce n'est pas la Norvège. C'est évidemment l'Algérie qui occupe la tête de ce classement, dans lesquels figurent évidemment l'équipe de France, le Maroc, le Maroc et la Tunisie, le Sénégal, et aussi l'Iran. Figurez-vous, l'Iran a été placé sur cette liste, non pas en raison des troubles que pourraient causer les supporters de l'équipe iranienne, mais bien en raison d'éventuelles petites offensives géopolitiques et offensives un petit peu sous-marines, comme cela a été déjà observé. Concrètement, une finale de Ligue des Champions, chaos dans tout Paris, forces de police dépassées, et là on s'oriente, je rappelle que les matchs de qualification, c'est 3 matchs par équipe pendant les tours éliminatoires, ce qui veut dire que vous prenez 3 matchs de l'équipe de France, les 3 matchs de toutes les 3 équipes du Maghreb, plus les 3 matchs du Sénégal, ça fait en gros une petite quinzaine de matchs à fort potentiel problématique. Rajoutez à cela le fait que cette Coupe du Monde se passe aux États-Unis et au Mexique, et que décalage horaire oblige, certains matchs auront lieu à 3h du matin. Comment ça va se passer, Étienne Darjac, d'après vous?
Je suis d'ailleurs admiratif de la façon dont vous êtes parvenu à expliquer si... clairement à nos auditeurs, les phases de poule, je vois que vous avez travaillé, Marc.
j'ai suivi fut un temps, Étienne.
Comment ça va se passer? Ça va très mal se passer, évidemment.
C'est pas une raison pour pas rigoler.
Il y a même plus de suspense. Tout le monde sait ce qui... Enfin, c'est que là, pour la finale des champions, c'était formidable. On avait 10 jours avant Laurent Nunez, qui tout benoîtement et presque fier de lui, annonçait dans la presse: alors voilà, il y aura 3000 casseurs, on anticipe 150 commerces brûlés, puis alors, il t'a annoncé ses statistiques, il était content.
Les assureurs ont pris des notes.
Voilà, les assureurs ont pris des notes. Du coup, bon, écoutez, comme d'habitude, les commerçants des principaux axes parisiens se sont barricadés. Voilà, puis on a laissé ces braves gens, ces braves jeunes, brûler quelques voitures. Voilà, on a interpellé les plus violents, et puis fin de l'histoire, quoi.
Et si
vous voulez, ça ne va pas plus loin, et vous êtes maintenant parti dans la séquence médiatique suivante. On est 3 jours après, où maintenant, c'était en boucle sur BFM toute la journée, le sujet c'était les policiers qui ont agressé les jeunes. Donc si vous voulez, c'est assez extraordinaire. Donc il va se reproduire exactement le même schéma pour chacun de ces matchs. Sans doute un peu moins pour ceux de l'équipe de France, parce que les supporters problématiques, pour les appeler comme ça, seront noyés dans la masse des supporters normaux.
Oui, mais ça n'empêche qu'il y aura beaucoup plus de monde dehors aussi.
Il y aura beaucoup plus de monde dehors, mais si vous voulez, ce qui s'est passé le soir avec des champions, il faut dire que les supporters du Paris Saint-Germain correspondent à une sociologie.
Une substantifique moelle.
Voilà, très particulière, où je marche un peu sur des œufs, n'est-ce pas ? Les éventuels fauteurs de troubles sont beaucoup plus nombreux proportionnellement au sein des supporters qu'ils le seront au sein des supporters de l'équipe de France. En revanche, pardon, je termine juste là-dessus. Pour les matchs de l'Algérie du Maroc, là, on atteint une proportion de 100% de fauteurs de troubles.
Donc, non, là, mais ça, c'est pas. Non,
ça va effectivement. Je peux pas vous laisser dire ça.
Il y aura évidemment une immense majorité de ses supporters.
Et je précise toujours, parce que Marc Henault panique, que je ne suis pas allé chez Valeurs Actuelles. Et que je suis libre de mes propos.
Ah, mais vous avez tout à fait raison, et on embrasse l'ARCOM Valentin Gore sur ce sujet.
Alors, c'est vrai qu'on ne sait plus très bien quoi dire, parce que vous avez tout dit, Étienne, évidemment. Mais c'est vrai que c'est la même scène, c'est le jour sans fin, avec des dégradations continues qui sont maintenant habituelles, avec un préfet de police, monsieur Patrice Faure, qui nous explique que les jeunes qui cassent, c'est pas sa responsabilité.
Je ne suis pas responsable des jeunes qui cassent, effectivement. Propos tenus en direct sur la station RTL.
Voilà, sur RTL.
On se demande de quoi il est responsable, du coup.
Oui.
Pas c'est, de bonne sécurité,
c'est étonnant, c'est quand même. Et on entend aussi sur RTL hier matin, monsieur Villepin qui explique qu'il y a une solution qui est d'accompagner les supporters, que le club, en l'occurrence le PSG, doit faire de la prévention. Donc on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire faire des réunions avant les matchs pour dire vous fêtez le match, mais vous n'allez pas casser des vitrines. On voit mal.
Il n'est pas question voilà, de poignarder votre petit
dialogue, camarade. De dialogue. Alors je ne sais pas très bien comment ça peut fonctionner. Non, en réalité, d'ailleurs, voilà, c'est ce que dit aussi la maire du 8e arrondissement sur les Champs-Élysées, qui elle propose carrément de fermer le quartier, de mettre une espèce de verrouiller le quartier. Elle a peut-être pas tort, c'est peut-être ce qu'il va falloir faire à l'avenir.
Mais si on verrouille tout Paris, tous les arrondissements vont vers la même chose.
Et on en revient, pardon messieurs, exactement à notre discussion de la semaine dernière sur les mortiers d'artifice et les feux d'artifice. Le problème, ce ne sont pas les mesures à prendre, ce sont les gens expulsés. C'est tout.
Sinon, on interdit les voitures parce que les voitures bénies, on interdit les voitures, et on connaît évidemment la rhétorique.
C'est toujours l'énième sujet, si vous voulez. On a l'impression de tourner un peu dans le vide.
Exactement.
Mais bon, effectivement, si vous fermez les champs, c'est très bien, ce sera les avenues parallèles qu'ils vont prendre. Et puis, etc.
Je rappelle que Canard Enchaîné a révélé que Laurent Nunez avait fait passer comme consigne aux membres du gouvernement de ne pas sortir de chez eux.
Oui.
Et surtout, pour éviter de se retrouver en plein milieu du chaos. Donc, là où c'est formidable, c'est que nous avons un ministre de l'Intérieur qui préfère séquestrer son gouvernement plutôt que de faire régner l'ordre. C'est assez inquiétant.
C'est pas forcément la moins mauvaise idée qu'il ait eue.
Oui, mais vous dites ça pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, pas du tout des républicainement avouables, Étienne Darjac. Je rappelle que, chers auditeurs, pas du tout. Je rappelle que vous êtes à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons Courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault et je suis en plateau avec Étienne Darjac, éditorialiste, Valentin Gore, journaliste au service politique de Valeurs Actuelles. Vous pouvez réagir à cette émission en posant vos questions à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr ou au standard au 01 46 51 00 85. Petit pronostic, Étienne Darjac, parce que je sais que vous êtes un fervent supporter. Est-ce que la France peut remporter à nouveau la Coupe du Monde? On va essayer de parler sport quand même une minute parce que.
Est-ce que la France peut remporter la Coupe du Monde? Oui, évidemment. Elle en a largement les capacités, autant en qualité de l'effectif qu'en cohésion de l'effectif. C'est un effectif qui joue ensemble depuis très longtemps, qui a globalement peu changé depuis la dernière Coupe du Monde et qui s'est renforcé avec les nouvelles gloires du Paris Saint-Germain notamment. Donc est-ce que la France peut gagner? Évidemment, elle fait partie des trois favoris. Après, il y a des équipes qui sont très costauds en face quand même. Donc, c'est pas joué d'avance et ça va être une longue compétition. Parce que je vous rappelle que nous sommes passés à 48 équipes désormais.
Absolument. Valentin.
Moi, je dirais que je connais pas beaucoup le football ou la balle au pied, mais je dirais comme Didier Deschamps que tous les matchs sont très difficiles.
Bravo, bien joué. Franchement, vous avez bien voté en touche. Vous avez bien voté en touche pour filer un peu la métaphore. Autre sujet, beaucoup moins joyeux, bien évidemment. Vous avez forcément vu cette sortie dans la presse de la veuve d'Alban Gervaise. Alban Gervaise, médecin militaire, assassiné devant l'école de ses enfants et en présence d'un de ses enfants devant une école marseillaise. Son assassin, reconnu irresponsable pénalement, pourrait sortir de détention et pourrait en tout cas avoir une permission de sortie, c'est-à-dire peut sortir du centre fermé toutes les fins de semaine. Évidemment, la veuve est absolument furieuse. Elle a notamment écrit une lettre ouverte à Gérald Darmanin en l'apostrophant en ces termes: Monsieur le ministre, savez-vous que les victimes sont condamnées, elles, à la perpétuité réelle? Très rapidement, parce qu'il nous reste que 3 minutes, mais en quelques mots, Étienne Darjac, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça m'inspire d'abord une immense tristesse pour la veuve d'Alban Gervaise et ses enfants. Je trouve que c'est d'ailleurs une des histoires sordides, comme on n'en manque pas, qui avait été qui a été vraiment passé sous les radars déjà à l'époque et qui même depuis n'a jamais fait beaucoup de bruit. Je crois que pourtant c'est arrivé en 2022, me semble-t-il.
C'est assez récent. En tout cas,
je trouve qu'on n'a jamais beaucoup parlé de cette histoire qui est pourtant particulièrement sordide, et d'autant plus sordide que le profil d'Alban Gervaise, lui, alors bon, on en parle de loin évidemment, paraissait être absolument remarquable.
Ensuite, le 10 mai 2022, vous avez raison.
C'était peut-être juste après le premier tour de la présidentielle, peut-être pour
c'était
ça.
C'était après la présidentielle. Après la présidentielle.
Ouais. La deuxième chose, c'est que j'ai lu ce que la lettre qu'elle a adressée à Gérald Darmanin. Je suis bien navré et profondément désolé pour elle. Ça veut dire que ça ne servira à rien. Vous vous souvenez peut-être de ce policier qui avait été assassiné par un policier ou un gendarme, je ne sais plus, qui avait été tué par des dealers il y a 2 ou 3 ans dans le sud-est. Je ne sais, je crois que c'était à Nîmes. Son épouse avait fait une conférence de presse absolument poignante, je sais pas si vous vous souvenez de ça, où elle était en larmes, où elle avait tenu un discours extrêmement offensif, très courageux, en accusant directement le ministre de l'Intérieur. Alors nous, on est des gens plus ou moins normaux, quand on voit ça, on se dit, mais comment le mec ne s'enferme pas dans son bureau, comment est-ce qu'il signe pas sa lettre de démission dans la foulée, et voilà.
Ça était pas ça, vous parlez de responsabilité publique, Étienne Darjac. C'est beau de garder une forme de candeur.
C'est assez touchant.
Valentin Gore, très rapidement. Je rappelle simplement que dans le rapport de l'expert psychiatre, Christelle Gervaise avait eu la surprise absolument désagréable, pour rester poli, d'avoir vu que ce rapport mentionnait une bagarre qui éclatait, comme si Alban Gervaise et Mohamed El avaient s'étaient battus sur un motif futile, et que Alban Gervaise a été qualifié de victime présumée. On rajoute de l'insulte à l'horreur.
Pour réagir, évidemment, je partage ce que vous avez dit, Étienne. Simplement un mot pour dire que là aussi, ça rejoint d'ailleurs un peu le sujet précédent sur le PSG. En dehors des expulsions, il y a aussi les places de prison, dont les constructions ont été très faibles depuis 2017. Je crois que c'est 8000 places de prison, donc c'est très peu en 10 ans. Moi, je pensais aussi à cette lettre du député de Côte d'Or, Hubert Brigand, qui a été maire d'une commune dans ce département, qui depuis 30 ans demande à l'État « Moi, je suis disponible pour que vous construisiez une prison dans ma commune, je suis volontaire », puisqu'on dit toujours que les maires ne veulent pas, et qui n'a jamais eu de réponse concrète.
On n'aura pas fini de parler de responsabilité de la presse publique, bien évidemment.
Je termine en une phrase. Pour conclure. À défaut d'efficacité de l'État ou de réponse adaptée, je vous renvoie au poème de Fresnes et au jugement des juges.
Et on revient vers vous dans quelques instants, chers auditeurs. Tout d'abord, un petit message de votre radio, et puis nous retrouverons Arnaud Rérol, directeur du projet Périclès, avec qui nous reviendrons notamment sur l'audition de Pierre-Édouard Stérin ce matin par la commission d'enquête sénatoriale. À tout de suite.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis en plateau avec Étienne Darjac, éditorialiste, Valentin Gore, journaliste au service politique de Valeurs Actuelles, et nous accueillons Arnaud Rérol, directeur général de Périclès. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Marc.
Alors, Pierre-Édouard Stérin a été auditionné ce matin par une commission d'enquête sénatoriale. Alors, l'intitulé est assez général puisqu'il porte sur, je cite, les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et les risques en matière d'influence et d'absence de transparence financière. On reconnaît bien là la rigueur de nos élus du Sénat. Un sujet somme toute légitime, voire banal, sauf que l'intéressé, donc, qu'on parle de Colombe Brossel, rapporteur de cette commission d'enquête, a précisé sa pensée très rapidement dès la fin de l'hiver dans la presse parlementaire. Vous l'avez compris, on a en tête tout ce qui navigue autour de la galaxie de Pierre-Édouard Stérin. Arnaud Rérol, vous êtes donc le directeur de Périclès, donc qui navigue, on peut le dire, dans la galaxie de Pierre-Édouard Sterrin. Je rappelle à nos auditeurs que Pierre-Édouard Sterrin est aussi actionnaire minoritaire de Valeurs Actuelles par souci de transparence. Comment expliquer cette passion qu'entretient la gauche sur les activités de Pierre-Édouard Sterrin et par ricochet sur celle de Périclès que vous dirigez ?
Merci Marc pour cette invitation. Effectivement, depuis quelques années, toutes les activités que Périclès développe et Pierre-Édouard Sterrin de manière générale intéresse beaucoup la gauche. L'année dernière déjà, il y avait eu une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale où j'avais été auditionné par le rapporteur Antoine Léaumont. Et donc cette année, vous l'avez dit, il y a cette nouvelle commission d'enquête au Sénat où nous sommes un certain nombre à être à la
vous
fois
associés. Vous avez été auditionné à l'Assemblée nationale, puis au Sénat d'ailleurs la semaine dernière.
Tout à fait, exactement. Et je pense qu'effectivement, il y a une forme de fantasme qui émerge autour de Pierre-Édouard, car depuis de nombreuses décennies, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons lancé Périclès, la gauche a une forme d'hégémonie sur les associations, les think tanks qui participent à la vie démocratique en promouvant leurs idées de gauche. C'est leur droit, mais on a créé Périclès afin de pouvoir contrebalancer cela par souci de pluralisme démocratique, comme j'ai pu le dire à Colombe-Bruxelles. Et je crois que ça les dérange et ça les intrigue. Et donc Pierre-Édouard aujourd'hui a pu vraiment clarifier les choses sur ses différentes activités et montrer que expliquer et répondre aux questions des sénateurs.
Ce qui avait créé la polémique aussi, c'est que Pierre-Édouard Sterrin devait être auditionné à l'Assemblée nationale et que finalement l'audition ne s'est pas faite, ce qui évidemment n'a fait qu'enfler, que faire enfler justement cette polémique.
Oui, en fait, c'est une fausse polémique en réalité qui était volontairement orchestrée parce que Pierre-Édouard a toujours dit qu'il était disposé à répondre aux questions des parlementaires. La preuve, il est venu aujourd'hui se présenter devant les sénateurs par visioconférence. C'est son droit. Il y a énormément de commissions d'enquête qui se déroulent comme ça. Et l'année dernière, les députés n'avaient pas voulu accepter la visioconférence et donc avaient effectivement, Pierre-Édouard n'avait pas pu répondre à leurs questions alors qu'il l'a fait aujourd'hui.
Beaucoup de Français ont découvert le Périclès justement à travers ces polémiques. Alors on entend parfois une fondation Jean Jaurès de droite, on entend un projet vague, identitaire, obscurantiste presque. Si vous aviez 2 minutes pour expliquer ce que c'est réellement que Périclès, que diriez-vous ?
Alors peut-être en 30 secondes, pourquoi on crée Périclès, c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment pour compenser ce manque de pluralisme démocratique et pour défendre les idées libérales et conservatrices, les idées de droite auxquelles nous sommes attachés. Donc effectivement, nous avons créé Périclès avec Pierre-Édouard il y a 2 ans et demi. Périclès est une organisation qui soutient et finance des initiatives citoyennes en vue de constituer un écosystème favorable au redressement de la France. Concrètement, nous sommes une sorte de station F de la droite, c'est-à-dire que nous créons des initiatives métapolitiques aux côtés d'entrepreneurs ou alors nous soutenons, nous finançons des structures pour les faire passer à l'échelle. Quel genre de structures ? Nous finançons des think tanks, des observatoires, nous finançons et nous créons également des programmes de formation pour pouvoir créer une nouvelle génération engagée dans la vie de la cité. Et puis enfin, des solutions technologiques pour professionnaliser l'action publique. Voilà, beaucoup de structures que vous connaissez. On a apporté un soutien à Radio Courtoisie, nous en sommes ravis, et à beaucoup d'autres structures qui agissent aujourd'hui dans la métapolitique en France.
Et donc l'idée, c'est de pour Pierre Sterrin, d'ailleurs il ne s'en cache pas en commission, c'est de faire rayonner ses idées en fait. Mais ça justement, c'est peut-être aussi ce qui pose problème à la gauche, puisque dans quelle mesure, et peut-être la question de cette commission, même s'il y a des objectifs idéologiques qui est assez légitime, dans quelle mesure est-ce que les fonds privés, les moyens d'une personne privée peut influer sur le débat politique et potentiellement orienter le vote de nos concitoyens et peut-être prendre le risque de fausser des élections ou des résultats démocratiques.
Je pense que c'est l'histoire d'une démocratie. Depuis toujours, il y a des think tanks qui produisent des idées et ensuite les Français sont suffisamment grands pour effectivement s'en saisir et décider de quoi voter. En fait, cette question des fonds privés, pour revenir à cette commission d'enquête, je crois que l'audition de Pierre-Édouard aujourd'hui a permis de démontrer plusieurs choses. D'abord, ils essayent de confondre les différentes activités de Pierre-Édouard. Il a été très clair. Otium Capital, son fonds d'investissement, vous l'avez dit, c'est un entrepreneur investisseur, occupe 90% de son temps. Aujourd'hui, il gère 1,5 milliard et le reste de son temps est alloué à 2 structures qui sont très distinctes, avec des objectifs distincts et qui répondent à ses propres valeurs. La première, c'est le Fonds du bien commun, qui est une structure qui soutient des projets d'intérêt général. Et puis la deuxième, c'est Périclès, qui assume une dimension métapolitique de droite. Et je crois que tout cela, finalement, est parfaitement légal. Pierre-Édouard l'a dit et a permis de clarifier les choses. Nous, ce que nous faisons, Périclès, nous soutenons effectivement des initiatives légalement pour pouvoir promouvoir dans le débat public des idées sur les thématiques qui nous importent.
Valentin Gore, vous avez une question pour notre invité.
Oui, une question claire, parce que je pense qu'on l'a tous à l'esprit. Dans quelle mesure avez-vous l'impression que cette commission a été montée peut-être principalement, justement, par prétexte pour recevoir Pierre-Édouard Sterrin d'abord? On a l'impression que c'est vraiment le cœur de ce que recherche Colombe-Bruxelles.
Alors effectivement, c'est plus qu'une impression, parce que Colombe-Bruxelles, je crois, dans les minutes ou dans les heures qui ont suivi la création de la commission il y a quelques mois, a elle-même dit à Public Sénat que la galaxie Stera l'intéressait particulièrement. Alors, ils ont mis un peu de temps, effectivement, à nous auditionner. Ils ont auditionné aussi d'autres structures. Mais on peut s'étonner de se dire qu'à partir du moment où on s'intéresse à l'utilisation de fonds privés qui influencent la vie démocratique, pourquoi un certain nombre de structures qui, comme nous, essayent de participer à la vie démocratique, mais de gauche, je pense à l'Open Society, qui investit des millions et des millions dans des quantités bien supérieures aux nôtres dans la vie politique française. Je pense aussi aux syndicats, les syndicats qui bénéficient de plus de 150 millions d'euros d'argent public et qui derrière, effectivement, influencent la vie démocratique. Et puis, beaucoup d'autres mécènes, philanthropes, qui, à juste titre, c'est leur droit, peuvent défendre leurs idées de gauche. Effectivement, beaucoup s'est concentré sur Pierre Dore. Peut-être un petit mot là-dessus. Il y a plusieurs milliers de fonds de dotation en France. Le marché du mécénat, c'est un marché qui pèse plusieurs milliards d'euros. Il y a des millions de Français qui donnent de l'argent, et c'est très bien, et c'est heureux. Et il y a effectivement une concentration et une forme de fantasme autour de Pierre-Edouard Stera en particulier.
On a vu depuis quelques mois, alors vous, évidemment, vous représentez Périclès, mais on peut parler de toutes ces institutions, de toutes ces entités qui ont été créées au moins à un moment, ou en tout cas inspirées par Pierre-Edouard Stera. Il y a le Fonds du bien commun, la Nuit du bien commun, Périclès, tous ces événements, même le Canon français, qui on a reproché un lien justement avec Pierre-Edouard Stera. On voit les attaques extrêmement violentes, donc le Canon français se fait régulièrement visé par des élus insoumis, les soirées de la Nuit du bien commun sont régulièrement attaquées par des milices ultra-gauche. À quoi vous attribuez, comment vous expliquez cette cristallisation un peu de haine que suscite Pierre-Edouard Stera et l'intégralité de ses actions, en fait?
Vous l'avez dit, effectivement, il y a une forme d'hystérie parfois qui peut émerger à partir du moment où le nom de Pierre-Edouard ou d'une de ses structures est alloué à une organisation qui agit soit pour l'intérêt général, soit pour défendre des idées. Et je tiens là-dessus d'abord à profiter de votre antenne pour remercier particulièrement pour toutes les initiatives que Périclès soutient, pour tout le travail qu'ils fournissent, parce que c'est eux, in fine, qui pâtissent le plus de cette couverture de presse caricaturale. Pierre-Edouard l'a rappelé tout à l'heure, il a fait 5 fois la une de l'Humanité en l'espace de 24 mois, c'est quand même assez exceptionnel.
Il a d'ailleurs nommé son fonds d'investissement principal du nom du journaliste de l'Humanité qui a enquêté sur lui.
Tout à fait, en expliquant tout à l'heure que c'est un pur clin d'œil, et bien évidemment. Et je crois qu'effectivement, il y a une cristallisation parce que, de fait, les pouvoirs, le service public, un certain nombre de médias de gauche ou d'extrême gauche voient les initiatives de Pierre-Edouard qui cherche à défendre ses valeurs de manière démocratique comme une menace par rapport à l'hégémonie culturelle, idéologique qu'ils ont constituée en France. Et donc, en fait, ils se sentent menacés, mais c'est une bonne chose.
Étienne Arjac.
Oui, je partage votre analyse. Ils se sentent menacés, ça c'est une évidence, mais surtout ils se sentent, je pense, menacés d'une façon qui est parfaitement inédite dans l'histoire politique française. Jusqu'à présent, il est arrivé que la droite attaque ou contre-attaque la gauche sur en fait, des éléments très programmatiques, c'était réforme contre réforme, vaguement valeur contre valeur quand on avait d'un côté ou de l'autre, projet contre projet, voilà. Là, il y a, dans Périclès, mais on peut aussi, d'une certaine mesure, parler de la commission d'enquête lancée par Charles Lalong sur le service public. Il y a une nouvelle manière d'attaquer, alors pas forcément frontalement, le Canon français attaque personne, mais une nouvelle manière de faire de la politique et faire de la métapolitique qui est parfaitement inédite à droite, en tout cas sur l'histoire récente, et dont on sent que la gauche en est profondément désarmée, quoi. Ils savent pas du tout comment réagir, et du coup ils sont absolument caricaturaux quand on voit notamment le Canon français, c'est particulièrement grotesque, les réactions que ça provoque. On les sent complètement paniqués, et je crois que ça dit la portée et le besoin qu'avait la droite d'initiatives comme Périclès. Je pense que...
C'est pas une question, ça, Étienne.
Je ne suis pas journaliste.
Je ne pose pas de questions.
Vous avez raison, effectivement. Et d'ailleurs, dans l'histoire récente, c'est inédit, même si Périclès soutient beaucoup d'initiatives qui étaient là depuis très longtemps. Je crois que Radio Courtoisie existe depuis très longtemps et participe aussi à cette bataille culturelle. Mais si on prend un peu de recul, vous savez, on s'appelle Périclès. Alors Périclès, c'est à la fois un acronyme qui représente les différentes valeurs que nous cherchons à défendre, mais c'est aussi évidemment le stratège athénien qui lui-même en fait faisait de la métapolitique. Il était corrège de Échille qui avait fait cette magnifique pièce de théâtre Les Perses. Et si on remonte plus récemment aussi, la droite en fait avait récemment oublié cela, mais Joseph de Maistre, dans Considération pour la France, parle de la métapolitique en disant elle doit être à la politique ce que la métaphysique est à la physique. Et finalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui Périclès est essentiel, c'est-à-dire que bien sûr que nous nous intéressons à la chose publique, mais avec une vision très long terme. Et c'est ce qui perturbe évidemment les sénateurs de gauche qui pensent qu'effectivement on souhaite influencer les élections. C'est pas notre travail. Nous, notre travail, c'est de soutenir des initiatives qui cherchent à redresser la France avec une vision très long terme, comme encore une fois la métaphysique le fait sur la physique. Donc on influence la métapolitique, c'est la métapolitique, c'est la vie de la cité, politique au sens noble du terme.
Je vous laisse la parole, Valentin Gore, pour une question. Juste une toute petite, parce que Étienne Darjac avait fait allusion à la commission à l'oncle. Est-ce que vous avez l'impression que cette commission d'enquête au Sénat, c'est un peu la réponse du berger à la bergère, en quelque sorte, que Charles à l'oncle a demandé des comptes sur l'utilisation des fonds publics et que... Voilà, c'est une forme de réponse faite par la gauche sénatoriale.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un hasard du calendrier qui est amusant, car la droite, finalement, en l'occurrence à travers la commission d'enquête que vous évoquez, finalement revient à l'esprit initial de cette commission d'enquête qui a été créée en 1958, qui est un outil de contrôle par le Parlement de l'État. Et c'est finalement la continuité de cet outil. Alors qu'on peut s'interroger sur une commission d'enquête qui vient contrôler les actions du privé. Alors qu'effectivement, comme j'ai pu le dire, déjà, il y a beaucoup de structures qui bénéficient de subventions publiques, qui mériteraient une attention de la part des parlementaires. Je parlais des syndicats, la Cour des comptes elle-même en 2024 alertait sur le manque de transparence et l'opacité de l'utilisation des fonds d'argent public par des syndicats qui, par définition, ont une grande influence sur la vie politique française. Donc oui, effectivement, ça permet de nous interroger sur la conception politique entre la droite et la gauche. Pendant quelque temps, on nous a dit que finalement, le clivage droite-gauche n'existait pas, mais le rôle que l'État doit jouer et le rôle de la société civile et comment elle doit participer à la vie démocratique.
Valentin Gore.
Oui, non, j'étais intéressé par ce que vous disiez évidemment sur la métapolitique, c'est cher aussi à Boutan par exemple. Et puis finalement, ce que vous incarnez avec d'autres, hein, évidemment, c'est que pour la première fois depuis longtemps, ça rejoint ce que vous disiez Étienne, la droite n'est pas seulement une non-gauche, c'est-à-dire qu'elle assume aussi ses références. J'imagine que vous portez un regard peut-être assez sévère sur ces 30-40 dernières années, je ne sais pas, il faudrait peut-être le dater même de la libération, c'est-à-dire du moment où la droite avait complètement abandonné ce combat culturel, le considérant dépassé, se centralisant tout à fait sur l'économie.
Je pense qu'effectivement, ce que vous avez dit est essentiel, c'est-à-dire que il faut cesser de se définir par rapport à l'autre bord politique. Et c'est la différence, vous savez, est-ce que l'on est à droite ou est-ce qu'on est de droite? Moi, je me définis comme étant de droite, c'est-à-dire je ne suis pas à la droite de quelqu'un, je suis de droite, qui est un corpus idéologique qui, effectivement, a ses différentes sensibilités, mais il est essentiel de revenir un petit peu à définir ce que l'on est. Et vous savez, on n'est jamais bien défini si on se définit de manière négative par rapport à l'autre. Et je crois que c'est une démarche dans laquelle s'inscrit beaucoup d'initiatives civiles et qui, j'espère, peuvent nourrir aussi les politiques de différentes sensibilités qui se définissent comme étant de droite pour pouvoir eux-mêmes revenir à la définition de ce que cela veut dire pour notre civilisation, pour notre pays et, concrètement pour les politiques publiques.
J'ai une dernière question pour voir Noé Roll. Dans moins d'un an, on se tiendra l'élection présidentielle. Comment, pardon, Périclès voit cette échéance? Comment est-ce que vous comptez, pour reprendre un peu les argumentaires de la gauche, comment est-ce que vous comptez influer sur l'élection présidentielle et comment comptez-vous faire triompher vos idées dans ce cadre-là?
Évidemment, l'élection présidentielle, dans une démocratie comme la nôtre, c'est une échéance essentielle. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'avenir de notre pays. Et Périclès, sans être prétentieux pour autant, mais nous avons une vision beaucoup plus long terme. Alors, les échéances électorales et présidentielles sont essentielles. Et tous les think tanks, par exemple, que nous soutenons vont pouvoir participer au débat public en produisant des notes. Comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on traite les problèmes sociaux, les problèmes de l'économie du pays, les problèmes d'immigration. Et donc, c'est de cette manière-là que nous essayons à participer au débat. Mais Périclès, et j'insiste là-dessus, c'est une organisation qui est métapolitique de droite, complètement assumée, mais parfaitement apartisane. Nous n'avons pas vocation à nous immiscer dans le jeu électoral. Les Français sont suffisamment grands pour savoir pour qui voter. En revanche, nous essayons d'alimenter ce débat. Et comment est-ce que je le vois? Eh bien, j'espère qu'effectivement, pour reprendre ce que vous disiez, que les politiques qui vont s'immiscer dans le débat électoral et qui derrière auront la responsabilité de diriger notre pays pourront définir effectivement leur vision de la France dans les 10, 15, 20, 50 prochaines années et le mettre en œuvre en s'inspirant de ce corpus idéologique de droite que nous sommes heureux de défendre et je crois qu'il est cher aussi aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Merci beaucoup Arnaud Rérol, directeur général de Périclès, d'avoir été avec nous pour revenir sur la commission d'enquête sénatoriale et l'audition de Pierre-Édouard Stérin. Merci, une Marc. Semaine après la vôtre d'ailleurs, puisque vous êtes aussi passé devant les sénateurs comme vous étiez passé devant les députés à l'Assemblée nationale. Restez avec nous chers auditeurs, dans quelques instants nous retrouvons Nicolas Boutin de VA Région, mais tout de suite un tout petit message de votre radio.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
À l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Étienne Darjac et Valentin Gore. Étienne Darjac, éditorialiste, Valentin Gore, journaliste politique chez Valeurs Actuelles. Et nous accueillons en plateau Nicolas Boutin, le chef de VA Région. Bonsoir Nicolas, est-ce que vous nous entendez bien ?
Bonsoir Marc, oui très bien, merci.
Nicolas, vos services suivent avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé dans le Gers, la disparition de cette petite Liana, cette jeune fille de 11 ans qui a été enlevée, dont le principal suspect, Jérôme B, est au cœur évidemment de tous les soupçons. Un corps a été retrouvé par les forces de l'ordre. Évidemment, on craint qu'il s'agisse celui de cet enfant. Nicolas Boutin, vous qui suivez ça avec attention, où en sommes-nous ?
Eh ben écoutez, effectivement, vous l'avez dit, il y a ce rebondissement après 7 jours de recherche, 170 gendarmes mobilisés dans ce petit coin du nord du département du Gers. Et effectivement, on a retrouvé un corps aujourd'hui dans l'après-midi dans un ancien silo à grains, donc dans une usine agricole qui est fermée depuis 15 ans. Serait proche du lieu où on aurait aperçu pour la dernière fois cette jeune collégienne de 11 ans le vendredi donc 29 mai dernier. On reste encore très prudent, mais il semblerait, selon nos informations, selon le procureur, que le corps serait bien le corps d'un enfant et que des vêtements similaires à ceux qui étaient attribués à Liana le jour de sa disparition soient également découverts à côté du corps. Donc, il reste encore quelques analyses à faire, notamment dentaires, notamment une autopsie qui va être réalisée dans les prochaines heures pour confirmer l'identité de ce corps. Mais malheureusement, on se dirige vers un nouveau drame qui touche aujourd'hui, on le voit, la France entière. Ce visage de Liana qui a seulement 11 ans, qui sortait du collège et qui aurait été donc enlevé et peut-être donc tué en même temps par le profil du principal suspect.
Oui. Olivier Barella. Justement, on va y revenir, Nicolas Boutin, parce que c'est là où l'affaire... Alors, pour expliquer à nos auditeurs, évidemment, cette affaire est abominable, mais si une des raisons pour lesquelles nous parlons aussi de ce fait, outre envoyer évidemment nos pensées les plus chaleureuses et les plus émues à la famille de cette petite fille, c'est le profil de Jérôme Barella,
Jérôme.
41 ans, qui a été mis en examen lundi pour la disparition de cette petite fille, puisque on a appris, enfin en tout cas nos confrères ont appris que dès le 22 août 2025, une mère de famille avait poussé les portes d'une gendarmerie en Haute-Garonne pour dénoncer des faits de viol sur sa fille mineure alors âgée de 10 ans, commise selon l'enfant par le père d'une de ses amies dans les mois précédents, et cette personne serait Jérôme B. Ce qui est absolument incroyable, Nicolas Boutin, mais vous allez nous en dire plus, c'est que c'était il y a près de 10 mois, donc quasi un an, et Jérôme B. n'a jamais été auditionné.
Mais je vais même aller encore plus loin que ça, c'est-à-dire que lorsque Jérôme B a été appréhendé par les enquêteurs le week-end dernier, il nous a été présenté comme un père de famille de 41 ans sans histoire et notamment qui ne présentait un casier judiciaire vierge. depuis, on a appris au compte-gouttes qu'effectivement, il y avait cette affaire en 2025 pour une enquête en cours depuis 2025 pour viol sur mineur, mais surtout qu'il y avait 5 autres affaires le concernant. Pourquoi est-ce que son casier judiciaire est aujourd'hui vierge ? Il y a en 2017 une plainte qui est classée sans suite. Il y a en 2022 une plainte également cette fois pour viol sur mineur classée sans suite également. Il y a en 2026 une autre plainte que celle de 2025 et en amont de ce qui s'est passé vendredi dernier, je préfère souligner encore une fois hein, qu'il reste présumé innocent évidemment. Et enfin en 2020 il avait eu un licenciement pour comportement inapproprié. Donc ce qui fait que on a ne s'est pas traduit par une sanction judiciaire, donc ce qui mais on a 2 classements sans suite, on a 2 enquêtes en cours avec également cette question où il n'a pas été interrogé pour le moment sur les affaires de 2025, sur la plainte de 2025. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un homme qui, pour le moment, a été, lors de sa garde à vue, resté silencieux auprès des enquêteurs, ne s'est absolument pas expliqué, n'a ni avoué, et a priori refuse de se défendre pour le moment, en tout cas devant les enquêteurs. Il reste évidemment présumé innocent, mais il est vrai que c'est une situation qui interroge sur le fonctionnement de notre justice. Et d'ailleurs, les ministres, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur et son homologue à la justice, Gérald Darmanin, ont demandé une enquête administrative pour identifier d'éventuels dysfonctionnements.
Oui. Alors, on signale que Grégory Bobateau, le maire de Fleurance dans le Gers, donc commune évidemment où habite la famille de la petite Layana, a pris la parole justement ce matin en dénonçant un système qui n'apporte qu'un soutien de façade. C'est toute la colère justement d'une communauté locale qui fait face à ce qui s'apparente en tout cas aujourd'hui, Nicolas Boutin, à une défaillance judiciaire à tous les niveaux, à une absence totale de responsabilité. Donc évidemment, si la place sera sans doute hélas au deuil et à la tristesse, il y aura aussi place à la colère et surtout place à la, finalement à la refaire toute cette chaîne de responsabilité, toute cette chaîne de manquement qui fait que le principal suspect n'ait jamais été inquiété pour tous les faits qui lui sont reprochés.
Non, effectivement. Alors déjà, ce que l'on peut dire, l'enquête administrative viendra pointer du doigt précisément ce qui s'est passé dans ces 5 procédures. Mais ce que déjà on peut savoir, c'est qu'aujourd'hui en France, de manière globale, on a une crise de l'investigation. C'est-à-dire que plus personne aujourd'hui ne veut aller dans l'investigation. Et lorsque l'on nous dit, lorsque les politiques nous vendent des recrutements, des affectations, des renforts de policiers dans les villes, ce sont des policiers de terrain. Et donc des policiers de terrain, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des gens qui vont faire du saut dessus, des affaires de flagrant délit. En tout cas, qui vont ramener des affaires pour lesquelles derrière il va falloir convertir judiciairement dans les bureaux par les enquêteurs. Et les enquêteurs aujourd'hui se retrouvent, que ce soit en gendarmerie et en police, se retrouvent avec un stock de procédures qui est extrêmement important. On est parfois à plus de 100-120 enquêtes en cours par gendarme ou par policier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
On commence à comprendre le problème là, Nicolas, effectivement.
Comment ?
On commence à comprendre le problème, effectivement.
Et donc, malheureusement, il y a des plaintes qui sont classées ensuite, soit par manque d'éléments, manque de preuves à apporter sur le moment. Et on sait malheureusement que sur les questions d'agression sexuelle, eh bien, il est difficile parfois de faire la part des choses, de rapporter une preuve matérielle, de pouvoir prendre en compte. Il y a toujours ce problème de prendre en compte la parole des victimes dans ces dossiers. Et donc, il y a ce réflexe de lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'éléments, on classe ensuite assez rapidement, et on se retrouve aujourd'hui avec malheureusement encore une fois, avec toute la prudence qu'il convient, avec peut-être un prédateur dans la nature qui malheureusement est a peut-être monté d'un stade à chaque fois jusqu'à arriver à un drame comme le connaît aujourd'hui le petit village de Florence.
Merci Nicolas Boutin. Évidemment, on se tient au courant des suites de cette affaire absolument sinistre, et on vous tiendra au courant au cours de l'émission des progrès faits par l'enquête et surtout par l'identification de ce corps. Merci à vous Nicolas Boutin, chef du service VA Région, d'avoir été avec nous pour nous raconter les derniers rebondissements de cette affaire abominable. Restez avec nous, chers auditeurs. Petite interlude musicale pour laisser le temps à notre invité de rentrer en plateau, et nous revenons tout de suite avec vous puisque notre invité est Alexandre Allégret-Pilot, député UDR du Gard. À tout de suite.